VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du mardi 1er mai 2018. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Gabon, la Cour constitutionnelle dissout l'Assemblée nationale et demande la formation d'un nouveau gouvernement.
Au Cameroun, les séparatistes anglophones s'en prennent pour la première fois à l'Église catholique en kidnappant un prêtre hier.
La France a condamné hier les menaces et intimidations répétées au Burundi à l'encontre de toute voix discordante.
Un Sénégalais de 31 ans reconnu coupable hier à Dakar d'avoir reçu de l'argent de membres du groupe État islamique et de Boko Haram.
La lutte contre le terrorisme était au centre des entretiens hier ici à Washington entre le président Donald Trump et son homologue nigérian Muhammadu Buhari.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dit disposer de nouvelles preuves concluantes d'un programme nucléaire secret de l'Iran.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Gabon, la Cour constitutionnelle a dissous l'Assemblée nationale et demandé la démission du gouvernement. La présidente de cette juridiction reproche aux autorités gabonaises de n'avoir pas organisé les élections législatives avant fin avril. Le point avec Raissa Girondin.
La Cour précise que le mandat des députés a pris fin et que le chef de l'État doit procéder à la nomination d'un nouveau gouvernement. Madeleine Bourantsuo, présidente de la Haute Cour, précise que le gouvernement n'a pas pu accomplir ses missions, dont la révision de la liste électorale depuis 2017 et la mise en place du Centre gabonais des élections depuis janvier. Selon la Haute Cour, le gouvernement a surtout échoué dans l'organisation des législatives au plus tard le 30 avril, après deux reports depuis décembre 2016. Le Parlement gabonais est considéré comme illégitime depuis dimanche 29 mars. Les législatives n'ont pas été tenues dans les temps fixés. La Cour constitutionnelle a donc décidé de transférer les pouvoirs de l'Assemblée nationale au Sénat jusqu'à la proclamation des résultats des législatives. La date de ces législatives sera annoncée après saisie de la Cour par le Centre gabonais des élections, qui doit prêter serment demain mercredi. Le CGE, qui rassemble la mouvance présidentielle et l'opposition, vient remplacer la commission électorale nationale autonome et permanente, ou CENAP, qui avait validé l'élection présidentielle contestée d'août 2016.
Au Cameroun, c'est l'escalade de la violence dans les régions anglophones. Un prêtre a été brièvement kidnappé hier, alors que l'ONG International Crisis Group recommandait l'Église pour faire la médiation. Le point avec Morgan Guériec.
À Bello, dans la région du Nord-Ouest, un prêtre catholique a été brièvement kidnappé hier. Ce serait la première fois que les séparatistes s'en prennent à un représentant de l'Église catholique. William Neba, proviseur d'un lycée aux alentours de Bello, a été enlevé hier, puis relâché. Conséquence, les parents d'élèves des établissements scolaires de la zone se sont précipités pour récupérer leurs enfants. Deux gendarmes ont été abattus samedi à Bali Nyonga. La veille, une enseignante enceinte a été tuée dans son école à Muyuka, dans le sud-ouest. Un autre enseignant a été tué à Kumba, dans la même région. Depuis fin 2017, au moins 33 cas d'assassinats de militaires et de policiers ont été imputés aux séparatistes. L'armée est souvent accusée de mise à sac des villages entiers et d'exécutions sommaires, ce qu'elle dément. Face à l'escalade, le SDF, Social Democratic Front, principal parti d'opposition, estime qu'il y a désormais une guerre civile ouverte dans les régions anglophones.
En République démocratique du Congo, le mouvement politique de l'opposant en exil Moïse Katumbi a poursuivi son opération de charme dans le pays après le déplacement remarqué de M. Katumbi ce week-end au Rwanda voisin en présence du président Paul Kagame qui entretient des relations complexes avec la RDC. À Kinshasa, le mouvement Ensemble de Moïse Katumbi a lancé deux journées portes ouvertes pour populariser son programme. Notre programme vise à remettre notre pays au travail, écrit dans un message aux participants M. Katumbi, candidat à l'élection présidentielle de décembre prochain.
La France a condamné hier les menaces et intimidations répétées au Burundi à l'encontre de toute voix discordante de l'opposition politique, des défenseurs des droits de l'homme et des médias indépendants. C'était en réaction à la condamnation à 32 ans de prison d'un militant qui avait protesté contre le troisième mandat controversé du président Pierre Nkurunziza. Le tribunal de grande instance de Bujumbura a condamné jeudi Germain Rukuki à cette sentence, l'une des plus lourdes peines jamais prononcées au Burundi, selon la Fédération internationale des droits de l'homme.
Un Sénégalais de 31 ans a été reconnu coupable hier devant un tribunal de Dakar d'avoir reçu de l'argent de membres du groupe État islamique et de Boko Haram. Il a toutefois affirmé avoir ignoré leur appartenance aux deux groupes djihadistes. Le point avec Abdourahmane Dia.
C'est le premier procès de cette ampleur au Sénégal. 29 personnes, dont 3 femmes, sont poursuivies pour actes de terrorisme et complot pour réaliser des attentats. Il s'est ouvert le 9 avril et entre dans une phase décisive avec l'interrogatoire des deux principaux prévenus. Martar Djohane, alias Abu Anwar, a affirmé être allé au Nigeria pour enseigner le Coran. Selon lui, Mustapha Diop, un Sénégalais alors basé en Arabie Saoudite, devait lui payer 1 500 euros par mois et lui avait donné 65 000 euros avant son départ. Par début 2015. Il a précisé qu'il ignorait que son contact était membre du groupe État islamique, comme le soutient la justice sénégalaise. Il a aussi reconnu avoir reçu 12 000 euros d'Aboubakar Shekau, le chef de Boko Haram, qu'il dit avoir rencontré pendant plusieurs heures. M. Djohane a été interpellé en novembre 2015 au Niger pour une affaire de fausse monnaie, puis remis au Sénégal. À Luindao, le principal prévenu, un imam connu de Kaolack, dans le centre du Sénégal, doit être interrogé dans le courant de la semaine.
Après leur rencontre dans le bureau ovale, les présidents Mohamedou Buhari et Donald Trump ont donné une conférence de presse conjointe dans les jardins de la Maison Blanche. On fait le point avec John Linden.
Le président Trump a d'abord remercié son homologue Buhari, disant qu'ils ont tellement de choses à faire ensemble, particulièrement en matière de lutte contre le terrorisme. Les deux hommes ont aussi discuté de commerce et d'équipement militaire. Monsieur Trump a d'autre part rappelé qu'il y a le problème des chrétiens qui sont tués au Nigeria. De son côté, Monsieur Buhari a bien sûr remercié son hôte en précisant que malheureusement, la sécurité a été le sujet principal de leur discussion. Il a remercié les États-Unis qui sont maintenant d'accord pour vendre des hélicoptères à Abuja et pour la présence militaire américaine pour des besoins de formation de l'armée nigériane, disant que son pays vit pleinement l'engagement des États-Unis contre le terrorisme. Sur la question des filles kidnappées au Nigeria avant son arrivée au pouvoir en 2014, le président Buhari a répondu que 80 d'entre elles ont été libérées. Pour celle de Dapchi, selon lui, 106 ont été kidnappées et 100 ont été retrouvées, 4 sont mortes et une est toujours en captivité. Le président nigérien a enfin remercié les Nations Unies pour leur rôle dans la libération de ses filles.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le premier ministre d'Israël a affirmé hier que son pays disposait de nouvelles preuves concluantes d'un plan secret que l'Iran pourrait activer à tout moment pour se doter de la bombe atomique. Benjamin Netanyahou a fait ses révélations en direct devant les télévisions israéliennes sur la foi, je cite, d'une formidable réussite dans le domaine du renseignement. Des détails avec Jean-Roger Bion.
La sortie de M. Netanyahou intervient au moment où la communauté internationale est suspendue à la décision de M. Trump qui a fixé au 12 mai la date butoir pour choisir ou non de dénoncer l'accord entre Téhéran et les grandes puissances sur le nucléaire iranien. Le premier ministre israélien a essentiellement fourni des détails relatifs à un plan iranien ancien appelé Hamad visant à produire 5 têtes nucléaires. Selon lui, Israël peut à présent prouver que l'Iran stocke secrètement du matériel provenant du projet Hamad pour s'en servir au moment de son choix et développer des armes nucléaires à grand renfort de documents ou de cartes diffusées sur un écran. M. Netanyahou a assuré que l'accord de 2015 reposait sur les mensonges iraniens et que l'Iran avait failli à ses obligations en ne faisant pas la lumière sur ses activités passées. Dans une première réaction, l'Iran, qui a toujours affirmé ne pas chercher à se doter de l'arme nucléaire, s'est moqué des pseudo-révélations de M. Netanyahou. Le président iranien Hassan Rouhani a souligné dimanche que son pays n'accepterait aucune restriction au-delà de ses engagements actuels. Le président américain Donald Trump s'est contenté d'estimer que la déclaration de M. Netanyahou était une bonne chose. Il a répété que l'accord passé en 2015 entre l'Iran et 6 grandes puissances internationales était horrible pour les États-Unis.
Le président Trump trouve intéressante l'idée de tenir éventuellement son sommet avec le leader nord-coréen Kim Jong-un dans la zone démilitarisée. Il l'a dit hier à la presse, quelques heures seulement après avoir dit dans un tweet qu'il aimerait tenir cette rencontre dans la Maison de la Paix et à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Monsieur Trump a souligné que plusieurs pays, dont Singapour, sont envisagés pour ce sommet, mais que son administration parle aussi de la zone démilitarisée.
Et toujours à Washington, le secrétaire général de la Maison-Blanche, John Kelly, dément des informations de la chaîne NBC News, selon lesquelles il aurait qualifié le président Trump, je cite, « d'idiot ». Monsieur Kelly a souligné dans un communiqué « Je passe davantage de temps que quiconque en compagnie du président et nous avons une relation incroyablement franche et solide », a indiqué Monsieur Kelly. Il sait toujours quelle est ma position et lui et moi savons que cette histoire est totalement absurde. Et M. Kelly a ajouté « Je suis engagé envers le président, son programme et notre pays ». Selon NBC News, M. Kelly a critiqué à plusieurs reprises M. Trump, disant qu'il ne possédait pas une bonne connaissance des dossiers, dont celui de l'immigration. Et M. Kelly se serait aussi qualifié de « rempart protégeant le pays contre les pulsions du président américain ». Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Le premier salon de l'étudiant africain se tient le 7 mai prochain à Ouagadougou, Burkina Faso. L'ensemble des 22 centres d'excellence hébergés dans des universités de 9 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale seront présents. Les formations post-universitaires, master et doctorat comprennent les domaines de l'eau, l'agriculture, la santé, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. L'Éthiopie a obtenu près de 3 milliards de dollars d'appui financier extérieur au cours des 9 derniers mois. Ce montant accordé sous forme de prêts et de dons provient de partenaires bilatéraux et multilatéraux. Il s'agit des institutions financières internationales, de l'Union européenne, des Nations unies et des pays partenaires du développement. Le budget fédéral de l'Éthiopie pour l'exercice fiscal 2017-2018 s'élève à plus de 12 milliards de dollars. Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, se rendra jeudi en Chine pour discuter du commerce. Les États-Unis veulent corriger le déséquilibre commercial avec la Chine, mais aussi renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle et prévenir les joint-ventures forcées. Washington a imposé depuis mars des tarifs douaniers de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium importé chinois. Monsieur Mnuchin a affirmé que les menaces de représailles de la Chine n'inquiètent pas l'administration américaine.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
L'Europe du football a les yeux rivés sur Madrid.
Real Madrid, Bayern Munich, la demi-finale retour de cette Ligue des Champions. Malgré la victoire à l'aller 2-1, Zinedine Zidane s'attend à cravacher comme jamais pour atteindre sa troisième finale d'affilée. Rien n'est joué, a répété hier en conférence de presse l'entraîneur français du Real qui voit dans ce duel au stade Santiago Bernabéu la marche la plus difficile à franchir cette saison. Pour les doubles champions d'Europe en titre, qui visent un triplé historique. La tâche qui s'annonce difficile pour les Bavarois, qui devront marquer au moins deux fois à Santiago Bernabéu. Et il faudra évidemment compter sur l'inévitable Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de la C1, grâce à ses 120 buts en 151 matchs, et qui voudra bien évidemment briller devant son public.
L'Espagne dévoilera bientôt sa liste des 23 joueurs retenus pour le Mondial en Russie.
Oui, le sélectionneur de l'Espagne, Julen Lopetegui, qui annoncera sa liste de joueurs convoqués le 18 mai à Madrid. Tous les sélectionneurs doivent en principe fournir à la FIFA une liste provisoire de 35 joueurs le 14 mai avant de la ramener à 23 noms au 4 juin. L'Espagne, championne du monde 2010, entrera en lice en Russie face au Portugal, le champion d'Europe en titre. Ce sera le 15 juin à Sochi, dans le groupe B de cette Coupe du Monde.
Au Mali, le mandat du comité de normalisation prolongé.
Le mandat du CONOR, le comité de normalisation du football malien, a été prolongé par la FIFA ce week-end à Bamako. Le CONOR travaillera jusqu'au 31 octobre prochain afin d'en finir avec les divergences entre les différents acteurs du football malien. Allez Idrissa, avec vous, quelques résultats de NBA. le championnat de basket nord-américain.
Match numéro 1 du deuxième tour en conférence Est, les Boston Celtics ont battu les Philadelphia Sixers 117 à 101.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, le 1er mai, fête internationale du travail, ne sera pas célébrée avec beaucoup de ferveur par plusieurs agents de sociétés de sécurité privée. Ces derniers déplorent de plus en plus ce qu'ils appellent leurs mauvaises conditions de vie et de travail. Syndicats et sociétés civiles au Cameroun s'en inquiètent aussi. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Les vigiles, comme on les appelle communément au Cameroun, assurent la sécurité des entreprises publiques, privées, mais aussi de certains domiciles. En tenue de travail ou pas, ils filtrent les entrées et sorties de jour comme de nuit, mais vivent dans des conditions de travail précaires. Ousmane et Abdourahmane sont employés de deux sociétés de sécurité privées à Yaoundé.
Ils ne nous paient pas bien, c'est ça le problème.
Et on vous paye combien?
35 000. Si quand tu as fait un an dans les sociétés, on va te donner les primes. Ils sont parlés comme ça, ils ne donnent pas aux gens.
Comme vous dites qu'on vous paye telle somme, après tu te retrouves avec les moitiés, bien on diminue un peu dans ton salaire.
Ces mauvaises conditions de travail des agents de sécurité privée sont les mêmes sur l'ensemble du territoire national. La société civile camerounaise qui s'est penchée sur ce dossier évoque de graves violations des droits de l'homme de ces travailleurs. Dora Sende et Boubakari Hassana, membres du collectif camerounais des organisations des droits de l'homme et de la démocratie dans les régions du littoral et de l'Est.
Dans le littoral, il y en a qui font des licenciements abusifs. Non seulement tu lui prouves d'un droit qui est de travailler, mais tu lui prouves aussi du droit de recevoir la contrepartie par rapport à un contrat que vous vous êtes donné.
Il y a les employeurs qui ne veulent pas affilier leur personnel. Il y a les non-respect des textes et les règlements.
Seules 9 sociétés de sécurité privée détiennent l'agrément d'exercice d'activité au Cameroun. Difficile dans ce contexte pour les responsables du syndicat de défendre les droits des vigiles camerounais. Célestin Mbama, secrétaire à l'organisation de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun.
Que les employeurs de ce côté, dès qu'ils sentent qu'un garçon est syndiqué, ils le mettent à la porte. Mais à la CSTC, nous étions à l'origine de l'élaboration de leur convention collective, malgré qu'elle connaît des petits couacs toujours du fait des employeurs au niveau du ministère du Travail.
La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, organe créé par le gouvernement, a été saisie par le collectif camerounais des organisations des droits de l'homme et de la démocratie sur la situation des employés des entreprises privées de sécurité. Pierre-Paul Moubitan, président du dit collectif.
Nous entrons dans ce domaine aussi pour aller sensibiliser, former, suggérer, de manière à ce que tous les acteurs puissent travailler en synergie pour qu'il y ait véritablement une bonne gouvernance dans ce secteur.
En attendant, la plupart des vigiles camerounais vont vivre un 1er mai plein de soucis. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Une réunion de consultation mondiale sur l'agriculture sous l'égide de la Banque mondiale vient de se terminer ici à Washington. L'occasion de parler de la crise liée en déficit de pluie sur le continent africain. Le manque de pâturage combiné à l'insécurité dans la région du Sahel rend la population vulnérable. Raissa Girondin a joint le docteur Jimmy Adoum, secrétaire général du CILS, le comité inter-état de lutte contre la sécheresse dans le Sahel.
Une expérience quand même assez mauvaise par rapport aux poches de sécheresse qui occasionnent une situation très difficile, situation nutritionnelle et alimentaire. En l'occurrence, nous avons dans les pays les plus affectés, nous avons le Burkina, nous avons la Gambie, le Tchad, la Guinée. Le Cap-Vert, il n'a pas plu du tout, donc il n'y a pas eu de production céréalière. Par rapport à ça, il y a des personnes qui sont affectées. Nous avons 7,1 millions de personnes issues de tout l'espace CILS qui sont en situation difficile. Des gens qui sont dans une situation telle que si on ne peut pas leur apporter une assistance, la période de soudure leur sera très difficile. Un ménage sur cinq ne peut pas subvenir à ses besoins pleinement s'il n'est pas assisté.
Quelle est l'incidence des conflits sur cette situation alimentaire?
Quand il y a conflit dans une zone donnée, les gens fuient les conflits et quand ils bougent de cette... ils abandonnent derrière eux les terres agricoles et quand ils viennent dans une autre zone, ils apportent avec eux tous les problèmes que nous connaissons, la pression sur les ressources maigres de l'espace nouveau qu'ils occupent et ça crée aussi des frustrations avec ceux qui occupent les lieux. Donc du coup, non seulement nous avons la migration, nous avons les déplacés, nous veillons assez strictement sur ce phénomène pour que des mesures très urgentes soient prises quand on voit le déplacement de ces personnes.
Que fait votre organisation, le CILS, pour venir à bout en fait de cette situation difficile auprès des populations?
Oui, le CILS donc mobilise des sommes extrêmement importantes. Par exemple, le CILS a mobilisé 250 millions de dollars pour un projet de pastoralisme actuellement mis en œuvre dans 6 pays qui sont la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal et le Tchad. Le CILS a mobilisé 173 millions de dollars avec la Banque mondiale pour investir dans l'eau parce que les pluies se raréfient et quand elles tombent, elles sont mal reparties dans le temps et dans l'espace. Donc avec l'apport de la Banque mondiale, plus nous sommes en train de créer d'autres synergies, nous allons pouvoir nous attaquer à ce problème récurrent. Non seulement nous appuyons nos États dans la lutte contre la sécheresse, la désertification, la résilience, mais nous cherchons ça et là des voies et moyens pour qu'ils puissent avoir accès à ces financements. C'est un travail de plaidoyer constant que nous sommes en train de faire. Il faut une très bonne gouvernance, qu'on s'éloigne davantage de la malgouvernance parce que les ressources se raréfient et ceux qui produisent de bons résultats qui vont vers l'impact pour mettre fin à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle vont avoir beaucoup plus de chances de sécuriser des fonds.
C'était le docteur Jimmy Adoum, secrétaire général du CILS, le comité inter-état de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Au Burkina Faso, les responsables de la filière coton avaient annoncé pour la campagne 2017-2018 une production de 820 000 tonnes de coton graines. Malheureusement, cet objectif ne sera pas atteint, la production étant chiffrée à 620 000 tonnes. Conséquence, le Burkina perd sa place de premier pays producteur de coton en Afrique. Mais pour la nouvelle campagne 2018-2019, l'interprofessionnel du coton entend reconquérir la première place en fixant la production nationale à 836 000 tonnes et en augmentant le prix d'achat du kilo de coton aux producteurs. De Ouagadougou, notre correspondant Zoumana Wonogo fait le point.
Sans faire dans le jeu de mots de mauvais goût, on peut dire que le Burkina Faso a filé du mauvais coton en cette campagne 2017-2018. Suivant Ali Compaoré, le directeur général de la Socoma, société cotonnière du gourmand.
L'insuffisance des pluies est passée par là. Les conséquences d'un tel profil pluviométrique atypique ont été une perturbation du développement normal du cotonnier dans un nombre assez important de parcelles, une forte recrudescence du parasitisme ainsi. Le volume de la production de coton graines conventionnel attendu au plan national pourra atteindre d'ici la fin de la campagne de drainage, d'ici donc la fin du mois de mai, 612 000 tonnes de coton graines. Si à cette production, on enregistre celle du coton biologique équitable de 1300 tonnes, la production nationale devrait donc se situer à 613 000 tonnes de coton graines. Ce niveau de production place le Burkina au deuxième rang des pays producteurs de coton africain après le Mali.
Pour reprendre sa place de leader, les responsables du coton du Burkina ont fixé la barre de production pour la nouvelle campagne à plus de 800 000 tonnes. Ali Compaoré, le directeur général de Socoma, explique.
Cette année, effectivement, l'objectif de production fixé par la ICB est de 836 000 tonnes. Nous pensons que cet objectif est réaliste et réalisable pour plusieurs raisons. Au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà recensé tous les besoins des producteurs. Donc, nous avons individuellement les plans de campagne de chaque producteur. Donc, quand vous prenez la compilation de ces éléments-là, on se rend bien compte que nous sommes au-delà de 900 000 hectares. Nous avons porté le prix d'achat coton-graines à 250 francs. C'est une amélioration par rapport à la campagne passée. Nous avons pu également, grâce à des subventions apportées par l'État burkinabé, nous avons pu maintenir le prix de cession des intrants au même niveau que la campagne passée.
La Sofitex, société des fibres textiles du Burkina, entend mettre en œuvre une assurance agricole. Suivons avec Wilfried Yamego, le directeur général de la Sofitex, les détails de cette assurance agricole.
Nous avons imaginé, avec les partenaires assureurs, la mise en place donc d'une assurance agricole. C'est 5 800 le premier étage et 11 200 le deuxième étage. Le premier étage de prime de 5 800 donne droit à une indemnité de 45 000 francs à l'hectare. Le second étage donnant droit à une indemnité de 90 000 francs à l'hectare.
Que pensent les producteurs de coton de l'assurance agricole et de la perte de la première place par le Burkina? Écoutons Yakuba Koura. Il est le vice-président de l'UNPCB, Union nationale des producteurs de coton du Burkina.
Vraiment, le Burkina a perdu sa première place. Ça nous fait très mal par rapport à l'assurance. Je pense que c'est la bienvenue.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
En Ouganda, le président Yoweri Museveni est très critiqué pour avoir demandé à son ministre des Finances de trouver les moyens de taxer les utilisateurs des réseaux sociaux afin de contrôler ce qu'il appelle la rumeur en ligne. Depuis, les autorités se sont éloignées de cette caractérisation, mais poursuivent leurs efforts pour une taxe quotidienne sur l'utilisation des data ou données qui pourrait commencer en juillet. Un reportage de Halima Atoumani à Kampala, rendu ici par Idriss Fall.
Le gouvernement ougandais affirme que les utilisateurs de l'Internet mobile ont augmenté de 15% depuis le début de l'année, car plus de gens utilisent les services en ligne pour faire des transactions financières. Il y a deux propositions de taxes sur la table. L'une veut 1% de taxe sur chaque transaction monétaire sur téléphone mobile et l'autre, c'est une taxe quotidienne de 5 cents pour les utilisateurs de data. C'est cette seconde proposition de taxer les réseaux sociaux qui déclenche un tollé. Réaction du blogueur Godiva Akulo.
Je crois que ces temps-ci, il y a beaucoup de business qui n'ont pour plateforme que WhatsApp et Instagram et leurs différentes manières de faire la pub sur Internet. Je pense que le président a été injuste sur la façon dont les Ougandais utilisent Internet.
Par contre, les officiels ougandais estiment que cette proposition va aider à améliorer les infrastructures pour la connectivité. Frank Tumwebaze, ministre de l'Information, de la Communication et des Nouvelles Technologies.
If you are able to make WhatsApp calls, okay?
Si vous pouvez faire des appels avec WhatsApp, ok. Si vous pouvez faire des appels sur Skype ou avoir des vidéochats, le gouvernement dit, comme pour d'autres juridictions, qu'il n'y a pas de mal à demander un petit service comme une taxe pour améliorer le service.
Les utilisateurs de l'Internet mobile sont sceptiques. Peter Magela Kwayakam, avocat défenseur des droits de l'homme.
La liberté d'expression est un droit et le gouvernement devrait plutôt chercher à faciliter la libre expression des gens, que vous soyez ou pas d'accord avec ce qu'ils disent, comme s'opposant à une taxe sur ce qu'ils utilisent pour s'exprimer.
Les activistes estiment que si le gouvernement a besoin d'argent, il devrait plus lutter contre la corruption et la gabegie. Mais c'est le Parlement qui aura le dernier mot et les responsables du ministère des Finances doivent passer devant les députés au début de ce mois de mai.
Prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons du paludisme chez les femmes enceintes et des conséquences chez les enfants.
L'infection palustre pendant la grossesse représente un problème de santé publique en Afrique, provoquant des anémies maternelles, des avortements, ainsi que des faibles poids de naissance et des retards de croissance chez les nouveau-nés.
Pour en parler, nous recevrons le professeur Philippe Donen de l'Université libre de Bruxelles, auteur d'une étude sur la question dans le Sud Kivu en RDC.
Nous écouterons aussi le docteur Rwamba Toussaint, médecin généraliste au Burkina Faso. Il nous parlera des moyens de prévention.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.